Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Robert Rocky Balboa est né le 6 juin 1945 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Enfant unique d'une famille italo-américaine catholique romaine, Rocky abandonnera rapidement ses études et découvrira le monde de la boxe à la fin des années 1960. C'est à ce moment qu'il commencera à s'entraîner au gymnase de Mighty Mick, l'emplacement appartenant à l'entraîneur et ancien boxeur Michael Mikey Goldmill. Incapable de vivre du faible salaire des combats en club et incapable de trouver du travail ailleurs en raison de son analphabétisme, Rocky trouvera un emploi d'agent de recouvrement pour Tony Gazzo, un usurier local, et ce, afin d'amasser assez d'argent pour payer ses factures de fin de mois. Balboa se trouvera également un travail dans une boucherie où il fera la connaissance d'un ancien militaire de la Navy, Paulie Penigno, avec qui il deviendra rapidement ami. Penigno était un alcoolique invétéré, cynique et souvent critique, mais devenant, avec les années, un ami très loyal de Balboa. Étant le plus âgé de la famille, Penigno avait une sœur cadette du nom de Adriana. Cette dernière, née également à Philadelphie le 10 mars 1950, souffrait de timidité excessive et était très naïve. Elle sera élevée par Paulie, cette dernière prenant alors soin de son frère aîné, et ce, malgré le fait que ce dernier la maltraitait verbalement à cause de son alcoolisme. Au milieu des années 1970, Rocky, alors âgé de 30 ans, sera considéré comme un boxeur maladroit et sans avenir. C'est alors que Paulie le forcera à sortir avec Adrianne, cette dernière travaillant à cette époque dans une animalerie du quartier de Kensington. Se développera alors une véritable histoire d'amour entre ces deux personnages au moment même où le boxeur se verra donner une chance unique, soit celle d'affronter le champion du monde poids lourd de la boxe professionnelle. Cette relation entre Rocky et Adrianne se développera grâce à un soutien mutuel et au courage qui forcera alors Rocky à vaincre ses peurs afin de devenir champion du monde et à sa femme Adrianne qui vaincra sa forte timidité afin de devenir un soutien important dans le futur du boxeur, et ce, jusqu'à sa mort le 11 janvier 2002, après un long combat contre le cancer. Donc, sortez vos gants de boxe et votre cœur tendre afin de vivre les débuts de cette incroyable histoire d'amour entre un boxeur semblant n'aller nulle part et cette femme d'une grande timidité, alors que je vous parlerai ici des deux premiers chapitres de l'une des franchises cinématographiques les plus aimées du public, soit celle de Rocky Balboa.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station.
We hope you have a wonderful time. Come back soon.
Refreshments.
For your enjoyment, there's hot, fresh popcorn, tempting, delicious hot dogs, and so many kinds of ice cream. And, of course, sparkling, delicious, ice-cold Coca-Cola for everybody at the refreshment counter now. Remember, your favorite snack will taste especially good with world-famous ice-cold Coca-Cola.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come.
You want to know?
I want to know how!
Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate loan shark.
To live in?
It's a waste of life!
I figure if I break the guy's thumb, he gets laid off, right? He can't take the
money.
Yeah,
well, don't figure. Let me do the figuring, okay, Rock? From here on, just let me do the figuring.
Come on! Wanna hit on me? Come on! I'll break both your arms so they don't work for you!
$50. You and your girl, Adrian, and you have a nice time, eh?
Thanks.
Rock.
What?
Remember what I told you.
What'd you tell me?
Take it to the zoo.
Oh, God! God!
That America is the land of opportunity.
Yeah.
Apollo Creed does. And he's gonna prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title.
I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago? You never helped me. You didn't care.
Well, if you wanted help. I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid?
Look, I asked, but you never heard nothing.
Nobody's ever gone the distance from Creed. And if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing, I weren't just another bum from the neighborhood. I mean, who am I kidding? I ain't even in the guy's league.
Wish me luck. I'm gonna need it.
Good luck.
Don't leave town.
Thank you.
Rocky est un drame sportif qui a été distribué par les studios United Artists le 3 décembre 1976. Ce film américain d'une durée de 119 minutes a coûté seulement 1,1 million de dollars à produire et a amassé plus de 225 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène John J. Avildsen, lui qui nous avait donné les films Karate Kid, Lean on Me et 8 Seconds. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Irwin Winkler, lui qui avait produit les films Raging Bull, Goodfellas et The Right Stuff, ainsi que Robert Chertoff, lui qui avait produit la version de 1972 de The Mechanic, ainsi que le film New York, New York. Au poste de scénariste, c'est le scénariste américain Sylvester Stallone qui écrit le scénario ici, lui qui avait travaillé sur les scripts des films Fist, First Blood, Cobra, ainsi que Cliffhanger. Dans la distribution, on y retrouve Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Taylor David et Joe Spinell. Un boxeur de troisième ordre, qui est également à l'emploi d'un usurier en tant que collecteur auprès de débiteurs récalcitrants, se voit offrir la chance de sa vie afin d'affronter le champion du monde qui, en mal de publicité, veut affronter un total inconnu à l'occasion du bicentenaire américain tout en offrant à ce dernier une chance de remporter son titre. Sylvester Stallone est né dans le quartier de Hell's Kitchen, dans l'arrondissement de Manhattan à New York, le 6 juillet 1946. Il est le fils aîné de l'astrologue célèbre et promotrice de lutte professionnelle féminin Jacqueline Stallone et du coiffeur Francesco Stallone, propriétaire d'un groupe de salons de coiffure dans le Maryland. Des complications lors de la naissance de Stallone ont forcé des obstétriciens à utiliser deux paires de forceps lors de l'accouchement, sectionnant accidentellement un nerf au passage, ce qui provoquera une paralysie du côté inférieur gauche de son visage. En conséquence, le jeune homme sera victime d'intimidation dans son enfance et y fera face en se lançant dans la musculation et le métier d'acteur, aspirant à un jeune âge de devenir non seulement acteur, mais également scénariste. Passant une partie de son enfance en famille d'accueil et en pension, le jeune Stallone ira étudier le théâtre à l'Université de Miami de 1967 à 1969, mais n'obtiendra pas son diplôme, faisant tout de même ses débuts au théâtre en 1970. Il fera même quelques apparitions dans des films en 1968 ainsi qu'en 1969, soit dans The Square Root ainsi que Horses. Mais ce sera finalement dans un film pornographique que le jeune acteur décrochera son premier rôle principal, Stallone, recevant plus de 200 $ pour plus de 2 jours de travail, étant alors forcé au désespoir après avoir été expulsé de son appartement et s'être retrouvé sans domicile fixe pendant plusieurs jours. Il jouera également dans une pièce de théâtre érotique off-Broadway qui a été jouée 23 fois au Martinique Theatre du 28 octobre au 15 novembre 1971, pièce qui sera ensuite adaptée au cinéma sous le titre de Score en 1974, et ce, sans sa participation. Étant sur le point d'abandonner sa carrière après avoir déménagé à New York, Stallone obtiendra alors quelques rôles secondaires dans les films What's Up Doc, MASH et Banana, avant d'obtenir un rôle dans le film The Lords of Flashbush, dont le tournage connaîtra des hauts et des bas de 1972 à 1974 pour des raisons budgétaires. Ce sera d'ailleurs ce film qui permettra à Stallone d'obtenir le rôle de Machine Gun Joe dans le drame de science-fiction Death Race 2000, un film dont il partagera la vedette avec le comédien David Carradine. Puis, le 24 mars 1975, Stallone assista au combat de championnat de boxe entre Mohamed Ali et Chuck Wepner, combat qui l'inspira à écrire un scénario, soit celui d'un boxeur vivant dans la misère et se voyant octroyer la chance d'affronter un champion pour son titre. Après plusieurs mois de réflexion, Stallone rédigera une première ébauche de 90 pages en moins de 3 jours et demi. Deux autres versions suivront afin d'améliorer le produit, le jeune acteur, sans argent, étant alors déterminé à interpréter le rôle-titre. Ce sera l'acteur Henry Winkler, partenaire de Stallone dans The Lords of Flatbush et qui percera le marché hollywoodien grâce à sa prestation du Fonz dans la série Happy Days, qui sera diffusée sur la chaîne américaine ABC, qui aidera Stallone en présentant le scénario aux dirigeants de la chaîne ABC, ces derniers exprimant leur intérêt pour une adaptation en téléfilm et achetant alors le scénario tout en insistant pour qu'il soit réécrit par quelqu'un d'autre. Apprenant la nouvelle, Stallone refusera l'offre, ne voulant pas laisser les dirigeants d'ABC embaucher un autre scénariste pour réécrire son script. Winkler dut retourner voir les dirigeants et leur a proposé de rembourser les droits. Malgré le refus initial d'ABC, Winkler utilisera son statut de star de l'époque pour les convaincre de lui redonner les droits du scénario. Les agents artistiques de Stallone, Craig Rumar et Larry Kubik, verront le potentiel d'une adaptation cinématographique du scénario de leur poulain. Ils présenteront l'œuvre littéraire à divers producteurs et studios hollywoodiens, mais essuyèrent des refus répétés, Stallone insistant pour qu'il interprète le rôle principal et qu'il soit la seule personne à travailler sur le scénario. Ce sera finalement la compagnie Winkler Chertoff Productions qui se montrera alors très intéressée au projet. Les deux producteurs approcheront alors les studios United Artists qui considéreront alors le projet comme un tremplin pour l'une de leurs vedettes, soit Robert Redford, Ryan O'Neill, Burt Reynolds ou encore James Caan. Les exécutifs de la United Artists offriront alors un montant de plus de 360 000 $ à Stallone pour ses droits, ce dernier refusant continuellement de vendre à moins d'interpréter le rôle principal. Après de nombreuses négociations, les producteurs Irwin Winkler et Robert Chertoff feront signer un contrat pour que Stallone soit le seul scénariste du projet et que celui-ci tienne également le rôle principal de cette histoire, qui sera alors intitulée Rocky. Le réalisateur Ralph Bashke, dont Stallone avait aimé le film d'animation Heavy Traffic, se verra alors offrir le projet de film, mais Bashke refusera, refusant de quitter l'animation. Et ce sera alors le réalisateur John J. Avildsen qui signera à sa place, ce dernier étant capable de diriger un projet avec peu de budget. D'ailleurs, afin d'accepter toutes les demandes de Stallone, Winkler et Chertoff utiliseront une clause de leur contrat les autorisant à réaliser le film de leur choix jusqu'à un coût de 1,5 million de dollars. Mike Medavoy, alors directeur de la production chez United Artists, proposera un budget de 2 millions, ce qui lui aurait alors permis de contourner l'accord des producteurs et de réaliser la production avec une star de son choix. Lors d'une réunion houleuse, Medavoy, Winkler et Chertoff s'entendront alors pour un budget de production d'un million de dollars, auquel s'ajoutera plus de 4,2 millions de dollars en frais de publicité. Dans cette entente, Stallone recevra additionnellement à son salaire de 75 000 $ 1% des recettes du film pour son rôle de scénariste et 2% des recettes pour son travail de comédien. Bien que les producteurs aient été très enthousiastes par le scénario, ils étaient tout de même craintifs à l'idée d'avoir un parfait inconnu dans le rôle principal de ce projet. Cela compliquera donc la recherche de la distribution, principalement due au faible budget, les personnages de Creed et Adrian étant choisis avec un retard inhabituel par rapport aux standards de production de cette époque. Ce sera le boxeur Ken Norton, qui avait combattu Mohamed Ali à 3 reprises dans sa carrière, qui fut initialement pressenti pour le rôle d'Apollo Creed, mais ce dernier se désistera, le rôle allant finalement à l'acteur Carl Weathers. De l'autre côté, ce sera l'actrice Carrie Snodgrass, qui fut initialement choisie pour incarner Adrian, mais un différend financier fera en sorte que les producteurs durent poursuivre les auditions. Susan Sarandon et la chanteuse Cher seront également auditionnées pour le rôle, mais ce sera finalement l'actrice Talia Shire, sœur du réalisateur Francis Ford Coppola, qui obtiendra le rôle, cette dernière venant tout juste d'accoucher de son fils, Matthew. Le commentateur sportif et acteur Gil Stratton était initialement prévu pour incarner le commentateur du combat entre Rocky et Apollo Creed, mais ce dernier acceptera finalement le rôle d'un journaliste de télévision, dont la scène sera malheureusement coupée au montage. Le boxeur Joe Frazier, originaire de Philadelphie, fera également une brève apparition dans le long métrage. Seul Burt Young ne passera pas d'audition pour obtenir son rôle dans le film, l'acteur ayant déjà travaillé avec le réalisateur qui le voyait déjà dans le rôle. En raison du budget relativement faible du film, les membres de la famille de l'acteur Sylvester Stallone auront des rôles mineurs dans la production. Ce sera le père de Stallone qui fera sonner la cloche pour signaler le début et la fin du combat final. Son frère Frank jouera, lui, un chanteur de rue, alors que sa première femme, Sasha, sera photographe de plateau. Parmi les autres apparitions, citons Stu Nathan, ancien présentateur sportif de télévision de Philadelphie, qui interprétera son propre rôle aux côtés de Bill Baldwin, présentateur radio et de télévision. Lloyd Kaufman, fondateur de la société de cinéma indépendante Trauma Film, interprétera ici le rôle d'un ivrogne, alors que Diana Lewis, présentatrice du journal télévisé de Los Angeles, fera une brève apparition en tant que journaliste de télévision. Fait amusant, le comédien Michael Dorn, mieux connu pour son rôle du Klingon Worf dans la télésérie Star Trek The Next Generation, ainsi que Deep Space Nine, fera ici ses débuts d'acteur, ce dernier interprétant le rôle d'un garde du corps de Creed, un rôle qui ne sera pas crédité au générique de fin du long-métrage. Avildsen ne disposera que de 28 jours pour tourner son film. Le tournage débutera donc le 9 janvier 1976 dans la ville de Pennsylvanie. Afin de respecter son agenda, le réalisateur organisera de nombreuses répétitions et chorégraphiera de nombreuses séquences. Durant les 4 semaines précédant le début du tournage principal, Stallone et Carl Weathers répéteront tous les gestes de leur combat pendant qu'Avildsen les filmait en Super 8 afin de découvrir les points faibles de la séquence. Afin de se préparer pour son rôle, Stallone s'entraînera quotidiennement avec l'acteur et le chorégraphe de boxe Jimmy Gambina pendant les 5 mois précédant le tournage. Certains éléments du scénario original durent être modifiés pendant le tournage. En effet, ce dernier était beaucoup plus sombre, le personnage de Mickey étant présenté comme raciste alors que le personnage d'Apollo Creed était jamaïcain et que l'histoire se terminait à l'origine par l'abandon du combat par Rocky, réalisant qu'il ne voulait finalement pas faire partie du monde de la boxe professionnelle. De plus, plusieurs blessures durant le combat de boxe et les restrictions budgétaires forceront également des changements rapides de la part de Stallone au niveau du script, ce dernier se devant au final de réécrire près de 90 % de son œuvre originale. D'ailleurs, le premier rendez-vous entre Rocky et Adrian, au cours duquel Rocky soudoie un concierge pour leur permettre de patiner après les heures de fermeture sur une patinoire déserte, a été tourné de cette façon en raison de problèmes budgétaires, la séquence originale devant initialement être tournée dans une patinoire publique pendant les heures normales d'ouverture. En effet, les producteurs décideront finalement de faire la séquence de la sorte car ils ne pouvaient pas se permettre, au niveau budgétaire, les centaines de figurants qui auraient été nécessaires à la séquence. Fait cocasse, le fait de faire courir Rocky aux côtés d'Adrian sur la patinoire fut décidé par le réalisateur afin que Stallone ne se blesse pas, ce dernier ne sachant pas faire du patin à glace. Le petit budget forcera également la production à tourner de manière guérilla dans les rues de Philadelphie, tout spécialement la séquence où Rocky court à travers la ville américaine durant son entraînement. Voyageant alors en camionnette à travers les différents quartiers pauvres de la ville, le réalisateur John Avildsen et son équipe débarquaient du véhicule dès qu'ils voyaient un emplacement intéressant et tournaient rapidement la scène avant que n'arrivent les policiers. De plus, les gens tiraient des objets en direction de Stallone, l'acteur étant alors inconnu à ce moment dans sa carrière. Afin de donner du mouvement à son image, malgré son faible budget, Avildsen embauchera Garrett Brown comme caméraman, ce dernier étant l'inventaire d'un nouveau système appelé Steadicam. Cette technologie, qui fut précédemment utilisée sur les films Marathon Man et Bound for Glory, était un système de support stabilisateur pour caméras de cinéma relié à un caméraman qui permettait à un opérateur qualifié d'obtenir des images fluides pendant que ce dernier était en mouvement, dans ce cas-ci courant aux côtés de Stallone lors des séquences d'entraînement dans les rues de Philadelphie et de la montée des escaliers du musée d'art de la ville. D'ailleurs, cette dernière séquence fut totalement improvisée et est désormais familièrement appelée « Rocky Steps ». Cette technologie sera également utilisée pour certaines scènes lors du combat final. Toujours à cause du maigre budget de production, les producteurs et le réalisateur devront faire preuve de créativité pour le match entre Rocky et Apollo, ceux-ci n'ayant pas l'argent pour se payer les figurants nécessaires pour la séquence. C'est alors qu'ils auront l'idée de créer une publicité pour un dîner de poulet gratuit à quiconque accepterait d'être dans la foule pendant le combat final. Le pari sera gagnant puisqu'au final, plus de 4000 personnes se présenteront pour assister au faux combat de boxe dont les prises de vue avec la foule seront réalisées en une seule journée de tournage. Lorsqu'Avildsen commencera son travail sur le combat avec Rocky, ce dernier n'avait aucune expérience pour tourner un match de boxe. Afin de sauver du temps pour le tournage, dont la durée était très limitée, le réalisateur demandera à Stallone d'écrire chacun des mouvements que lui et Apollo auront à faire dans le match. Le lendemain, l'acteur arrivera sur le plateau avec plus d'une trentaine de pages décrivant chacune des actions du combat. La visite de la reine par Rocky à la veille du combat, où il mentionne que son short n'est pas de la bonne couleur sur l'affiche, a été incluse dans la version finale du film car le département des accessoires s'était réellement trompé sur les couleurs du costume de combat de notre héros. Il en va de même pour la robe de Rocky, qui était beaucoup trop grande, Stallone modifiant alors son scénario pour intégrer cet aspect à l'histoire, son personnage manquant de raffinement et de style par rapport à Creed. Dans la fin originale, l'arène de boxe était vide au moment où Rocky en sortait. Après avoir reçu un mot de consolation d'un autre boxeur, Rocky prend la main d'Adrienne et tous les deux traversent le corridor ensemble. Cette image se retrouve sur le poster original du film. Après le tournage de la séquence, il fut décidé que la fin était trop simpliste et devait être refaite. Pour économiser, Avildsen retournera à la séquence finale revisée dans laquelle Rocky crie à Adrienne de le rejoindre sur le ring, le tout entouré de quelques figurants seulement. Le tournage prendra fin le 5 mars 1976. Après avoir tourné certaines séquences dans la ville de Los Angeles, l'équipe de production ayant gentiment été mise à la porte de Philadelphie par divers syndicats. David Shire, alors mari de l'actrice Talia Shire, fut le premier à se voir proposer de composer la musique de Rocky, mais ce dernier dut refuser en raison d'engagements antérieurs. Avildsen contactera alors le compositeur de 34 ans, Bill County, et lui fera part du budget relativement faible du film. County avait déjà travaillé avec Avildsen sur WW and the Dixie Dance Kings en 1975, mais sa musique fut malheureusement rejetée par le studio qui finançait la production. Avec un budget de seulement 25 000 $, Conti acceptera ce montant, servant alors à payer son cachet, celui des musiciens, ainsi que la location du studio où fut réalisé l'enregistrement des morceaux musicaux. Pour la chanson « Gonna Fly Now », qui atteindra la première place du classement Hot 100 du magazine Billboard pendant la semaine du 2 au 8 juillet 1977, County fera appel aux paroliers Anne Robbins et Carol Connors pour écrire les paroles de la chanson, ceux-ci étant inconnus à cette époque. Cependant, les exécutifs de United Artists décideront de faire appel à leurs propres auteurs-compositeurs, forçant alors County à se battre pour ces deux auteurs. Ce sera le frère de Sylvester Stallone, Frank, qui écrira et chantera la chanson Take You Back, chanson qu'il interprétera avec les autres membres de son groupe durant le film. County aura l'idée d'utiliser des trompettes pour la séquence d'ouverture du long-métrage afin de capter rapidement l'attention du public. Pour la séquence du montage de l'entraînement, le monteur Richard Halsey créera celle-ci à partir de la musique de County, quelque chose qui se faisait très rarement à Hollywood à cette époque. La trame sonore du film sera par la suite distribuée sur le marché en vinyle et en cassette 4 pistes via l'étiquette United Artists Records le 12 novembre 1976 et il faudra attendre au 7 novembre 1988 avant que celle-ci ne soit disponible sur CD via l'étiquette EMI Records. Une fois le montage final terminé, la division promotionnelle de la United Artists lancera une vaste campagne publicitaire pour promouvoir le long-métrage sportif, notamment avec des illustrations clés montrant Rocky partiellement enveloppé dans un drapeau américain, ainsi que des articles dans des magazines de renom décrivant le film comme une histoire de Cendrillon. Cela permettra alors au film Rocky de connaître un immense succès, devenant le deuxième film le plus rentable de 1977, tout juste après Star Wars. Le film aura deux premières à New York, la première ayant lieu au Paramount Theater le 20 novembre 1976 et la seconde étant située au Cinéma 2 de New York le lendemain. Une autre première aura lieu cette fois-ci au Plaza dans le Westwood Village de Los Angeles le 1er décembre 1976. Au final, Rocky amassera plus de 177,2 millions de dollars en Amérique du Nord et un 117,8 millions additionnels au niveau international. Le film aura également un succès journalistique impressionnant, forçant l'Académie des Oscars à lui remettre plus de 10 nominations, étant même en compétition comme meilleur film de l'année contre des films tels que Taxi Driver, Network et All the President's Men. Ce sera finalement Rocky qui remportera l'Oscar du meilleur film de l'année, et ce, à la surprise de tout le monde. Rocky remportera également le prix du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur montage. Le film a également remporté le DGA Award de la meilleure réalisation cinématographique et a reçu un Golden Globe de la Hollywood Foreign Press Association pour le meilleur film dramatique. Du côté de Stallone, celui-ci sera nommé par la Writers Guild Award pour le meilleur drame écrit directement pour l'écran, alors que l'actrice Talia Shire remportera les prix du New York Critics ainsi que celui du National Board of Review pour la meilleure actrice dans un second rôle. L'après-Rocky ne sera pas facile pour Stallone et ses producteurs, ces derniers subissant de nombreuses poursuites judiciaires. La première touchera directement les producteurs Chertoff et Winkler pour un montant de plus de 30 millions de dollars. En effet, en 1977, John Roach et Ron Supa, producteurs de Four Stand Productions, intenteront une action en justice, ces derniers prétendant détenir les droits exclusifs avec Stallone pour écrire et jouer dans un film intitulé Hell's Kitchen. Un film qui était basé sur le thème d'un boxeur professionnel qui se forgeait alors une réputation. Malgré la plainte, les studios Universal Pictures accepteront de financer Hell's Kitchen, qui sortira en salle en 1978 sous le titre de Paradise Alley, mettant ainsi un arrêt aux procédures. Finalement, en novembre 2003, l'ancien boxeur poids lourd Chuck Wepner poursuivra Stallone en justice afin d'obtenir une part des bénéfices des films de la franchise Rocky, affirmant que le premier volet de la série était basé sur sa vie. Wepner conclura finalement un accord à l'amiable, hors cours, pour un montant non divulgué. Suite au succès de Rocky, le film pornographique qu'avait tourné Stallone à ses tout débuts, A Party at Kitty and Studs, sortira en vidéo-cassette sous le titre de The Italian Stallion, Stallone déclarant qu'à sa connaissance, le film n'était jamais sorti en salle et qu'il déplorait l'exploitation de ce film via la vidéo. En 2007, Rocky figurera à la 57e place du classement des meilleurs films américains dans la catégorie 100 Years, 100 Movies de l'AFI. Dans d'autres catégories, l'AFI classera Rocky comme quatrième dans la catégorie 100 Years, 100 Cheers, le personnage de Rocky figurant septième dans la catégorie des 100 plus grands héros et vilains de l'AFI, et sa réplique mémorable, Yo, Adrian, figurera dans la catégorie des 100 meilleures citations du cinéma américain. Quant à l'acteur Taylor David, qui interprétait le personnage de George Miles Jurgens dans le film, celui-ci décédera le 17 juillet 1978 des suites d'une crise cardiaque dans la ville de New York. Il n'était âgé que de 51 ans. Du côté des points forts, eh bien le point fort de cette espèce de conte de fées moderne à la David contre Goliath est sans aucun doute la réalisation très crue du réalisateur qui n'a pas peur de prendre son temps à développer son histoire, ce dernier mettant à valeur le contexte pauvre de l'histoire et étant capable de montrer la ville de Philadelphie dans toute sa splendeur. La distribution est tout simplement géniale ici, l'acteur Burgess Meredith volant tout simplement la vedette avec son rôle mémorable de Mickey. Même Stallone est amusant et convaincant dans le rôle-titre et sait s'attirer l'amour du public en jouant sur la naïveté et le manque d'éducation de son personnage. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de voir le personnage de Rocky sans voir l'acteur Stallone l'interpréter. D'ailleurs, tous les personnages sont attachants ici, seul Apollo Creed n'est pas assez utilisé à mon goût, ce qui enlève toute chance à l'auditoire de s'identifier aux champions du monde. Avec un visuel réfléchi, Rocky bénéficie d'une trame instrumentale discrète mais à point du compositeur Bill Conti. Mais du côté des points faibles, eh bien, ce drame sportif est en réalité un véritable film d'auteur dont le rythme lent pourrait ennuyer certains spectateurs. Pour les amateurs de boxe, ce film s'intéresse plus au personnage de Rocky que du combat final qui n'a pas la même impact visuel que celui des films ultérieurs. Un aspect triste ici, il aurait été plaisant de voir comment s'entraînait le champion du monde, quelque chose sur lequel Stallone va plus s'attarder dans les prochains films. Au final, Rocky est un excellent drame sportif, mais malheureusement, le combat n'est pas très réaliste et surtout, on a un 15e round qui file à la vitesse de l'éclair, contrairement au reste du combat.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
And concentrate.
It's over, Rock.
Now that it's over, just give me something to drink.
There ain't nothing on ice to the save it all.
Left in brisk ice, pay, eh?
Except maybe this.
And Balboa needs a miracle.
Yo, that's brisk, baby.
Get in there. Save some of that for a sequel.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Kind of a freak the first time out.
Rocky, his whole life was a million to one shot, but he's about to show the world he's one in a million.
Why don't you stand up and fight this guy hard like you've done before? That was beautiful.
Rocky II, the story continues.
I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much.
I do.
Thanks.
The love continues.
You're the best thing ever come to my crazy life.
faster! Move faster!
The courage.
The doctor said you shouldn't fight anymore.
You recommended I don't fight, and I recommend that I do.
The challenge.
I want all of America, I want the whole world to see me destroy this man after two short rounds.
Right. Rocky, do you think you have a chance this time against Apollo?
I don't know, it looks pretty bad.
The hope.
I never asked you to stop being a woman, you know. Please, don't ask me to stop being a man.
The tears.
He's gonna get hurt because of you.
Well, if he goes blind, you walk away. I can't. I love him. Get out!
The joy.
He's really us? Adrian, I can't believe you've done this.
The pain.
Don't worry about nothing. You just sleep as long as you want, okay? And I'm gonna be here when you wake up.
The struggles.
You go back to being a two-bit nut.
The dreams.
I think we ought to knock his block off.
Absolutely.
15 rounds for the heavyweight championship of the world.
You think you're going to see a real great battle in every sense of the word?
That's what this fight is going to be. It's going to be a war.
You're going down, man. You're going down.
The most electrifying rematch in motion picture history. Rocky II, starring Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, and Burgess Meredith. Rocky II, the story continues.
Rocky II, ou Rocky II, la revanche, est un drame sportif qui a été distribué par les studios United Artists le 15 juin 1979. Ce film américain d'une durée de 120 minutes a coûté 7 millions de dollars à produire et a amassé plus de 200,1 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Sylvester Stallone, lui qui avait réalisé les films Staying Alive, Rambo ainsi que Rocky Balboa. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs américains Irwin Winkler ainsi que Robert Chartoff. Winkler ayant produit les films Creed, True Confession et New York, New York, alors que Chartoff avait produit les films The New Centurions, Raging Bull et Straight Talk. Au poste de scénarisation, on y retrouve encore le scénariste américain Sylvester Stallone, lui qui avait écrit les scénarios de Over the Top, Driven et Rambo 2. Dans la distribution, on y retrouve Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Sylvia Mills, Paul Mikael et Joe Spinell. Un boxeur de troisième ordre qui a acquis une certaine notoriété suite à un combat avec le champion du monde de sa catégorie retombe bientôt dans la dèche et accepte un combat revanche demandé par l'actuel champion qui désire, lui, démontrer au monde entier de façon nette sa supériorité sur ce dernier. Après le succès inattendu de Rocky en 1976, les producteurs et les dirigeants des studios United Artists étaient impatients de réaliser une suite. Entre-temps, Stallone avait participé à deux longs-métrages à titre d'acteur principal, soit Fist ainsi que Paradise Alley, dans lequel il fera également ses débuts à titre de réalisateur. Avec des recettes très modestes, Stallone deviendra alors convaincu que son prochain projet devait être Rocky II et que celui-ci serait le film qui pourrait sauver sa carrière. John Havlicek, oscarisé pour la réalisation de Rocky, déclarera qu'il était fort intéressé par la réalisation de la suite, mais devra se retirer du projet, ce dernier travaillant alors sur la pré-production d'un autre projet, soit celui de Saturday Night Fever, qu'il quittera finalement un mois avant le tournage principal en raison de désaccords artistiques. Alors que Stallone retravaillait son scénario, initialement intitulé Rocky II Redemption, ce dernier profita du départ de Havlicek afin de demander au dirigeant de la United Artists de s'occuper lui-même de la réalisation. Étant réticent à confier la réalisation à l'acteur, car sa réalisation précédente, Paradise Alley, n'avait pas été un succès, ce seront les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff qui exercèrent une forte pression pour lui décrocher le rôle. Une entente sera prise pour que Stallone co-réalise finalement le long-métrage en compagnie du metteur en scène Tom Wright, qui sera ici à la demande de la Directors Guild of America, indiqué comme consultant technique au générique du film. Après s'être entendu sur un budget de plus de 7,6 millions de dollars, Stallone débutera non seulement son travail de pré-production sur le nouveau film, mais s'occupera également de débuter son entraînement. Son programme consistait à des heures de musculation, du cardio à outrance et un régime strict, son objectif étant de ressembler à un boxeur au meilleur de sa forme, Stallone devenant alors un homme avec plus de 200 livres de muscles. Malheureusement, c'est à ce moment que les choses tourneront au cauchemar pour l'acteur-réalisateur, ce dernier subissant une blessure horrible un mois et demi seulement avant le début du tournage. En effet, Stallone s'entraînait avec le culturiste Franco Colombu lorsqu'il se déchira le muscle pectoral. Plutôt que de reporter le début du tournage, la nouvelle star hollywoodienne apportera une modification importante à son scénario, une modification qui forcera le personnage de Rocky, un gaucher, à apprendre à se battre de la main droite. Cette décision permettra à Stallone de gagner du temps pour se remettre de sa blessure, mais ce dernier se devra de tourner malgré tout avec une douleur intense tout au long de la production. Un autre changement majeur devait être fait au scénario. En effet, alors que toute la distribution du premier film était de retour, l'actrice Talia Shire était incapable de tourner pendant la majeure partie du tournage de Rocky II, cette dernière ayant déjà signé pour jouer dans le film Old Boyfriends. Pour accommoder l'actrice, Stallone ajoutera la séquence où Adrienne tombera dans un profond coma suite à un accouchement difficile afin de permettre à l'actrice de quitter le tournage vers le début de celui-ci et de revenir, 4 mois plus tard, tourner les scènes où son personnage regarde le combat de boxe à la télévision. Un autre changement, une autre fin sera tournée, Adrienne devant à l'origine assister au combat et même être portée sur le ring après la victoire de Rocky. Cette fin sera finalement abandonnée au montage, se servant des nouvelles séquences tournées lors du retour de Shire. Le boxeur Chuck Wepner était la source d'inspiration pour Rocky et se verra proposer par Stallone le rôle d'un entraîneur. Wepner auditionnera pour son rôle, mais cela ne se passera pas très bien, ce dernier étant dans l'étau de graves problèmes personnels à cette époque. Suite à l'échec de cette audition, Stallone décidera finalement de supprimer du scénario le personnage en question. Malgré cela, Stallone demandera la participation du champion de boxe Roberto Duran, qui aidera Rocky lors de son entraînement afin d'apporter un aspect plus authentique au personnage. Une autre petite surprise, ce sera le propre fils de Stallone, Sergio Stallone, qui interprétera le nouveau-né de Rocky et Adrienne. Fait cocasse, ce sera Sage Stallone, le frère aîné de Sergio, qui reprendra le rôle du fils des Balboa dans le 5e film de la franchise. Stallone et Weathers s'entraîneront pendant plus de 2 mois et demi dans un gymnase de boxe bâti dans les locaux du bâtiment Barrymore sur l'emplacement des studios MGM à Culver City, en Californie. L'entraînement serait fait sous la supervision du conseiller technique de boxe Al Silvani, qui avait déjà travaillé avec des combattants professionnels tels que Floyd Patterson, Rocky Graziano et Jake LaMotta. Tout comme le premier film, le tournage aura lieu dans la ville de Pennsylvanie du 2 octobre 1978 jusqu'au 2 février 1979. Certaines séquences seront également tournées en Californie, plus précisément dans les studios de la MGM et au Los Angeles Sport Arena. D'abord intitulé Rocky II Redemption, le film changera pour Rocky Returns avant de devenir tout simplement Rocky II. En plus de permettre de nouveau l'apparition de son frère Frank et de son groupe dans ce nouveau film, Stallone placera son propre chien, dont le nom Butkus était véritablement le sien. Dans la séquence où Rocky traverse la ville de Philadelphie à la course, plus de 800 écoliers locaux serviront de figurants pour la dite scène. Mais le plus grand défi ne sera pas physique pour Stallone, mais plus de réaliser et de jouer en même temps une intensité qui sera une pression énorme sur les épaules du jeune homme de 32 ans. Pour le combat final, celui-ci sera donc filmé au Los Angeles Sport Arena devant une salle comble de figurants. À l'origine, Stallone voulait que le match ait lieu au Colosseum de Rome, en Italie, mais le maigre budget ne lui permettra pas. Plusieurs blessures surviendront de nouveau aux deux acteurs durant la prise de vue, la légendaire scène du double knockdown nécessitant plus d'une dizaine de prises. De plus, durant le tournage, Stallone et Weathers se bousculeront véritablement, se provoquant mutuellement avant d'être finalement séparés par tous les autres acteurs faisant partie de la séquence. En effet, les deux hommes étaient en colère l'un contre l'autre, car plusieurs coups censés manquer leur cible avaient été portés de part et d'autre. Appréciant la réaction suscitée sur la pellicule, Stallone décidera de conserver ce moment de colère entre les deux comédiens, le public ne pouvant réaliser que les deux acteurs étaient en réalité furieux l'un contre l'autre. Plus de 8 mois seront nécessaires à Stallone et aux monteurs Danford Green et Stanford Allen pour monter la scène de combat décisive et le reste du film. Tout comme pour le précédent volet, Bill Conti sera embauché pour composer la musique du film. Frank Stallone, frère de Sylvester Stallone, écrira les paroles et la musique de deux nouvelles chansons pour le film, soit Street Scat et Two Kinds of Love. Même la femme de Conti, Shelby, participera à la trame sonore, coécrivant la ballade All of My Life. Ce seront les chanteurs D'Etta Little et Nelson Pickford, qui avaient déjà contribué à la bande originale de Rocky, qui prêteront ici leur voix à cette chanson. Cependant, la version vocale ne sera jamais intégrée au montage final du film, une version instrumentale de la chanson étant jouée pendant la nuit de noces de Rocky et d'Adrienne. L'album de la bande originale sortira le 25 août 1979 sur vinyle et en cassette 4 pistes sous l'étiquette United Artists Records, alors que le CD sortira quelques années plus tard sous l'étiquette EMI Manhattan Records. Rocky II aura sa première mondiale le 14 juin 1979 au Midtown Theater de Philadelphie au profit de l'organisme local Police Athletic League. Par la suite, le film amassera plus de 8,1 millions de dollars lors de ses 4 premiers jours d'exploitation dans moins de 788 salles, ce qui en faisait l'un des lancements les plus rentables de la United Artists à cette époque. Bien qu'en compétition directe avec des films tels que Alien, Star Trek The Motion Pictures et Meatballs, Rocky II rapportera plus de 85 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et un 115 millions de dollars additionnels dans le reste du monde, faisant de lui l'un des 3 films les plus lucratifs de 1979. Par la suite, le drame sportif remportera le prix du meilleur film aux American Movie Awards et remportera également le People's Choice Award du film préféré de cette année-là. Vu la grande popularité de la nouvelle franchise, la Columbia Broadcasting System, soit la CBS, obtiendra les droits de diffusion télévisuelle du film pour un montant estimé à plus de 20 millions de dollars. Au niveau de la novélisation, ce sera Sylvester Stallone lui-même qui s'occupera de l'écriture. Ce roman, principalement écrit du point de vue de Rocky, étant publié par la maison d'édition Ballantine Books en 1979. Rocky II sera dédié à la mémoire de Jane Oliver, la première manager de Sylvester Stallone, qui décédera d'un cancer en juin 1977 au jeune âge de 46 ans. C'est elle qui découvrira Stallone, le guidant au tout début de sa carrière. Un autre décès à souligner, celui de l'acteur Joe Spinell, décédé dans son appartement de Queens à New York le 13 janvier 1982, au jeune âge de 52 ans. Ce dernier s'était gravement coupé après avoir glissé dans sa douche et son hémophilie l'avait conduit à une hémorragie mortelle. Ce dernier interprétait le personnage de Tony Gazzo, un usurier, ami et ancien employeur de Rocky, rôle qu'il tiendra dans les 2 premiers volets de la franchise. Du côté des points forts, eh bien, toute la distribution du film original est de retour ici, toujours aussi bonne que le film précédent. Encore une fois, Stallone impressionne par son interprétation naïve du personnage, alors que Burgess Meredith est un incontournable, ce dernier étant sans contredit la bougie d'allumage ici. De plus, la chimie entre Stallone et Shire est parfaite. On croit à ce couple qui nous transporte dans ces montagnes russes d'émotions, une relation qui est plus présente ici que dans le premier volet. L'humour réussit à nous faire oublier les temps morts du scénario, Stallone sachant exactement comment accrocher son auditoire et surtout comment faire pour que ce même auditoire aime ses personnages, même les plus détestables. Il est plaisant de finalement voir le champion du monde s'entraîner et le combat final est beaucoup plus dynamique que celui du premier film, Stallone ayant pris de l'expérience dans ce domaine. D'ailleurs, ce combat sait nous tenir en haleine sur notre siège, même si au final, l'auditoire se doute de la conclusion de celui-ci. Mais du côté des points faibles, eh bien, assumant cette fois-ci la mise en scène, Stallone cherche à copier le style réaliste d'Avildsen pour le premier film, mais n'y arrive tout simplement pas. Le scénario manque de dynamisme, tout comme la réalisation de Stallone, ce qui nous donne un long métrage dont le rythme lent nous donne droit à plusieurs longueurs et dont le développement est nettement moins captivant que le film précédent. Les séquences d'entraînement de Rocky sont peu réalistes, surtout avec le temps qu'il a devant lui pour se préparer. Cela en sera de même pour le combat. Aucun boxeur ne saurait supporter le nombre de coups au visage que subit notre héros sans qu'il y ait des séquelles plus évidentes, ce qui nous donne droit à un combat explosif, mais illogique. Alors que le 15e round du film précédent était beaucoup trop court, celui-ci semble interminable pour les deux boxeurs. On dirait que l'horloge qui calcule les 3 minutes du round s'est tout simplement cassée avant le début de celui-ci, ou encore que quelqu'un a pris la décision de laisser le match aller jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Rocky 2 ressemble plus à un soap opera ici, avec quelques séquences de combat qui semblent répétitives. Un spectacle de moins bonne qualité que le premier volet, mais un chapitre tout de même captivant pour l'auditoire. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté Rocky 4. Moi, j'y vais avec un 3. C'est un film qui a quand même assez bien vieilli. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général. J'y vais avec une cote pour tous, malgré quelques scènes de violence. Du côté de Rocky 2, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec un 5. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Au niveau du format DVD et Blu-ray, eh bien, le film Rocky de 1976 peut être trouvé en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Vous avez également l'édition Steelbook qui inclut le Blu-ray, mais qui inclut également la version 4K HD qui inclut français et version anglaise. Pour Rocky 2, le film se trouve en DVD et en Blu-ray en français et en anglais. Pour les amateurs de la franchise, il y a 2 coffrets que je vous suggère. Il y a d'abord Rocky, le Six Film Collection. Ça, c'est si vous voulez avoir quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Ça se trouve en DVD, en Blu-ray, mais également en 4K. Et vous avez le Rocky Heavyweight Collection qui a été fait pour le 40e anniversaire de Rocky. Ça, ça inclut les 6 films de la saga en DVD ainsi qu'en Blu-ray, en français ainsi qu'en anglais. Donc, des pièces que vous pouvez rajouter à votre collection.
Ladies and gentlemen, our next attraction.
Coming soon to a theater near you.
3 years ago, you was supernatural. You was hard and you was nasty. And you had this cast iron jaw. But then, the worst thing happened to you that could happen to any fighter. You got civilized.
I want a shot at the title. That boy got the guts to meet me in the ring or anywhere else. He can't duck me forever. He can run, but he can't hide. You got your shot. Now give me mine. And why don't you tell all these nice folks why you've been ducking me?
You know, you got a big mouth, you know?
Why don't you come out and close your mouth, boy? Come on.
Hey, what are you doing? I want to fight this guy.
You'll fight him without me. Balboa
in the corner, out on his feet.
New heavyweight champion of the world, Glover Lang.
You lost that fight, Rock, for all the wrong reasons. Now, when we fought, you had that eye of the tiger, man, the edge. And now you got to get it back. What's the matter with you? This guy will knock you on your ass.
I'm afraid, all right? You want to hear me say it? I'm afraid. For the first time in my life, I'm afraid.
My name is Tarago. I'm a fighter from the Soviet Union. I fight all my life and I never lose. Soon I fight Rocky Balboa and the world will see his defeat. Soon the whole world will know my name.
C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.